Elle se drogue. Nos 15-16 ans sont aussi dans le peloton de tête européen de la consommation d'ecstasy, de cocaïne et d'amphétamine. Banalisation, prix bas, dealers à la porte des établissements scolaires, voire à l'intérieur, distribuant gratuitement une première dose pour acquérir de nouveaux clients. Parce que les drogues ne sont pas encadrées par la loi, le marché noir se développe et la qualité des produits est sujette à caution. Ce que les jeunes achètent peut contenir au mieux de l'amidon, mais au pire du savon, des détergents, tout ce qui peut augmenter la quantité et donc le profit des vendeurs. Pour protéger nos enfants, relation et liberté. De l'attachement et encore de l'attachement. Rester celui ou celle à qui l'ado peut se confier. Parler ensemble de la drogue sans faire la morale ni poser de jugement. La liberté est souvent confondue avec la licence. La première consiste à exercer son libre arbitre, choisir sa propre route. La licence, c'est faire ce qu'on a l'impulsion de faire quand on en a envie, sans considération aucune sur les conséquences de nos actes. Plus l'ado se sent libre de ses choix, donc responsable, moins il risque de se laisser tenter. 3 à 4% des 15-16 ans français ont déjà consommé de la cocaïne, de l'ecstasy, MDMA de la famille des amphétamines, ou d'autres amphétamines. Elle est hypersexualisée et grossière. Lors d'une conversation, une phrase de votre fille vous choque. « Comment peux-tu traiter ta copine de pute ?» On parle toutes comme ça. Si c'est moi qui le dis, je contrôle. C'est pas moi la pute. Et puis il faut que je montre que je suis à l'aise avec le sexe. Prétextant un simple jeu sans conséquence, elles peuvent se traiter de salope ou de pute entre amis. Se montrer ainsi vulgaire entre elles peut faire partie d'un désir d'augmenter leur popularité. Les stars hypersexualisées leur montrent l'exemple. Nombre de filles pensent qu'arborer une attitude sexuelle permet d'être populaire. Elles cherchent à plaire, à être vues, désirées, aimées. Cette attitude sexy leur donne l'illusion d'avoir du succès. Elles sont regardées par les garçons, oui. Mais les enquêtes montrent que ces derniers n'apprécient guère les chaudes autant qu'elles le croient. Plus un individu veut être populaire, plus il est actif sexuellement. Elle insiste pour que je lui achète des talons aiguilles ou une jupe super mini? Est-ce vraiment son désir? Je l'aide à distinguer ce qui est elle et ce qui est influence sociale, désir de se conformer à ce qu'elle imagine que les autres attendent d'elle. Il connaît son premier chagrin d'amour. À 15 ans, on vit souvent son premier amour. C'est fort. L'adolescent est exposé à des taux inédits de dopamine et d'ocytocine. Pendant la relation amoureuse, les hormones mettent l'ado dans un état second qu'il n'a jamais vécu. Certaines études ont montré que le cerveau adolescent resterait amoureux 4 mois. La rupture est dévastatrice. Elle n'est pas seulement une blessure à l'âme. La brutale chute d'opioïdes dans le cerveau déclenche réellement de la douleur. Ces molécules sont ainsi nommées parce qu'elles sont similaires à l'opium, se fixant sur les récepteurs opiacés dans le cerveau, lesquels gèrent la douleur, le stress, le plaisir et les émotions. Être là, écouter, ne pas minimiser. Il a besoin de vivre son désespoir. Je l'aide à accepter de succomber aux sanglots. C'est bon de pleurer, ça libère. Elle sort avec des garçons. Je vois les autres faire tout ce que les gars leur disent de faire et elles se font traiter de putes. Ça me fait non à l'intérieur. Mais c'est comme ça. Il faut bien y passer. De notre temps, à 15 ans, on se demandait comment on embrasse. De nos jours, la fellation est le premier rapport sexuel pour plus de 50% des filles. Le sexe oral n'est même pas vraiment considéré comme sexuel puisqu'elles sont encore vierges. Téléphoner aux parents accueillants pour vérifier les conditions d'une fête montre à notre ado l'attention que nous portons à ce qu'elle vit, même si ça l'énerve parfois. Cela nous permet aussi de constituer une communauté éducative autour de nos ados et leur permet de sentir que les adultes sont là, qu'ils peuvent être des ressources et non des barrières. Interdire ou poser des limites est non seulement inutile, mais risqué. L'ado est tentée de transgresser et elle tentera davantage de se prémunir de nous que de ses copains. Garder la communication est fondamental. Les ados ont besoin d'informations autres que celles qu'ils trouvent dans la pornographie et de s'entraîner à sentir et exprimer leurs désirs et de résister à la pression sociale. 55% des jeunes de 15 ans ont pris part au moins une fois à des activités sociales sexualisées. Danse sandwich, danse mimant des scènes érotiques, striptease. Entre 3% et 6% auraient participé à des activités explicitement sexuelles ou génitales. Concours de masturbation, fellation, chandail mouillé, sexe à plusieurs et activités sexuelles sur webcam. Auparavant, l'activité sexuelle était perçue comme un comportement d'adulte. Aujourd'hui, l'initiation sexuelle est considérée comme une expérience adolescente. Il ne s'écoule que 3 ans et demi entre le moment où 10% d'une génération débute leur vie sexuelle et le moment où 80% de cette même génération en font autant. Au début du XXe siècle, ce délai était supérieur à 10 ans. Il n'a pas de copine. Les filles, c'est trop compliqué. Le sexe dans les jeux vidéo, c'est super, pas de prise de tête, et les nanas sont canons. Parler à une fille a toujours intimidé les garçons, et réciproquement. Avant, les codes étaient relativement clairs et les filles soumises. Dorénavant, les filles ont des exigences, et l'ado ne sait pas s'il peut être à la hauteur. Dans les jeux vidéo, tout est plus facile. On se sent facilement fort, puissant. Les images pornographiques vues sur le net compliquent tout. Sexualité brutale, sexe épilé, superbe nana désinhibée, performance masculine. Ce n'est peut-être pas que les garçons se désintéressent des vraies filles et de la vraie vie, mais qu'ils en ont peur. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir, de s'attacher, qu'elles s'attachent, de s'embêter avec les émotions. Parlons sans phare avec eux, de tout, du sexe, de l'amour, des filles, de comment on fait. Fournissons-leur des informations plus fiables que celles de la pornographie. Et surtout, aidons-les à se sentir puissants. Informés, on se sent déjà plus fort. Quand on sait reconnaître et accueillir ses propres émotions et celles d'une fille, c'est encore mieux. Et puis, un peu de musculation ne fait pas de mal. Quand on se sent sûr de son corps, on ose davantage. Au Japon, alors que l'industrie du sexe, la pornographie et les poupées en caoutchouc font fureur, les jeunes et moins jeunes ont de moins en moins de rapports sexuels. 42% des hommes et 44% des femmes entre 18 et 35 ans sont vierges. En comparaison, le taux de virginité en France est de 26,2% chez les jeunes entre 18 et 25 ans. Il envoie sexto ou sextape. Avant, les garçons mataient les filles par le trou de la serrure. Puis, le Polaroid est arrivé et les ados ont photographié leur sexe. Chaque génération s'adapte aux moyens techniques dont elle dispose. Mais quand la curiosité naturelle des ados pour le sexe rencontre la phénoménale technologie d'aujourd'hui, cela pose un sacré problème. Les sextos sont rapidement devenus sextapes, petites vidéos de soi en action. Les célébrités en publient en libre accès sur Internet. Et comme tout ado désire ressembler à son idole, pour nombre d'entre eux, poster ou recevoir sexto ou sextape est juste normal, commun, naturel. Excitation, honte, fierté. Une fille peut éprouver des sentiments mêlés, mais peut parfois se sentir sous pression et ne plus se poser la question de son désir propre. Seulement après, brouille, rupture ou simple piratage, les vidéos originellement destinées aux seuls petits copains risquent de se retrouver n'importe où sur la toile. Snapchat leur semble un moindre mal puisque les photos s'autodétruisent. Mais si l'image disparaît de son téléphone, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Elle peut réapparaître n'importe où sur la toile puisqu'en s'abonnant, l'ado a coché la case « j'accepte » et ainsi donné son accord pour que l'appli utilise les données à son gré. Des adolescents se sont retrouvés fichés délinquants sexuels après avoir été jugés coupables de production, détention et diffusion de pornographie infantile d'eux-mêmes. Le parent est considéré comme légalement responsable. Voir des images sexuelles de nos enfants est choquant, c'est leur intimité. Mais sur le web, ces images deviennent publiques. Non seulement nous sommes responsables légalement, mais nos enfants ont besoin de notre aide. Un contrôle parental installé sur leur mobile dissuade nombre de tentatives et les soulage, et ils peuvent aussi nous faire porter le chapeau de leur refus. Si nous tentons de leur faire la morale, de leur expliquer notre point de vue, ils risquent de se fermer et ou de nous renvoyer dans nos buts. « Tu es dépassé, tu parles d'un autre temps, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. » Et ce n'est pas faux. D'autant qu'il peut nous arriver de nous focaliser sur la nudité davantage que sur le vrai souci, celui de la confidentialité des données. Aider l'ado à réfléchir, et mieux le faire réfléchir en groupe, l'aidera davantage que toutes nos admonestations. Nous pouvons suggérer une intervention au collège sur comment se prémunir des dangers de la toile. Les ados ont besoin de connaître les modes opératoires des prédateurs et de mesurer l'importance de règles de sécurité, comme par exemple ne jamais donner son adresse. Mais là encore, si nous donnons des règles aux ados, ils ne les suivront pas forcément. S'ils se les donnent eux-mêmes parce qu'ils ont compris les dangers, ils les suivront. Agir, c'est aussi dénoncer cet internaute qui tente de communiquer avec notre ado si nous le suspectons d'être un prédateur pédophile. En 2009, 4% des adolescents âgés de 12 à 17 ans ont envoyé par SMS des images sexuellement suggestives d'eux-mêmes, 15% en ont reçu. En 2016, 50% l'ont fait. Garçons et filles partagent tout autant de photos de nus.